liberté.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Djoliba TV News. Bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Djoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service citoyen et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité est un économiste de formation, c'est aussi un homme politique hein, qui a été élu à Kolondieba comme député lors des dernières législatives en 2020. Il est aujourd'hui le septième vice-président de l'URD, hein, le parti fondé par Feu Soumaïla Cissé, vous l'aurez compris, notre invité est l'honorable Moussa Daouda. Daouda Moussa Kone. Voilà, Daouda Moussa Kone est notre invité. Monsieur le Président, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci de répondre à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Oui, je rappelle que vous êtes économiste de formation. Vous êtes aujourd'hui septième vice-président de l'IRD. Première question, comment déjà se porte hein, le parti fondé par Soumaïla Cissé, l'IRD?
Eh bien, merci pour cette question. Mais d'entrée de jeu, je me permettrai, avant de répondre à cette question-là, de souhaiter, parce que depuis l'avènement de l'année 2024, c'est ma première fois sur votre antenne, je me permettrai de souhaiter à vous, à toute l'équipe de Djoliba TV et vos téléspectateurs qui sont de l'intérieur comme de la diaspora, une bonne et heureuse année. À tous ceux qui nous regardent, à tous les Maliens, une bonne et heureuse année 2024. Que l'année 2024 soit une année apaisée pour le Mali et que vivement tous nos souhaits soient réalisés avec succès.
Amin, amin. Oui.
Maintenant, en ce qui concerne l'URD, l'URD se porte bien. Il y a eu des soubresauts à un moment donné, mais il y a eu un apaisement ces derniers temps. Et donc, on est en train de relancer, de consolider et de se conforter. Okay. Le travail sur le terrain, ça continue.
D'accord. Oui, par rapport à la transition, notre thème intitulé « La gouvernance de la transition ». Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et lors de ses voeux à la nation, a évoqué un certain nombre de sujets, et comme les réformes politiques et institutionnelles, la lutte contre la corruption, la question énergétique, la reconquête de Kidal. Il a parlé aussi de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. On va parler justement de Kidal, hein, Kidal et où... Et les FAMA sont entrés, on se rappelle, le mardi 14 novembre 2023. Oui, déjà sur ce chapitre-là et en lien avec la reconquête du territoire national. Vous, qu'est-ce que ça vous fait au niveau de l'URD? Quel est le sentiment qui vous anime?
Monsieur Alidou, la reprise de Kidal, c'est l'apothéose. Le premier axe de l'action gouvernementale, c'est la sécurisation du territoire. Et la rentrée du 14 novembre à Kidal, c'est comme si on avait enlevé une arête de la gorge de tout un Malien. 11 ans durant, le Malien était humilié. 11 ans durant, le Malien était frustré. Le Malien se voyait interdit d'accéder à une partie de son territoire. Ça, ce n'est pas acceptable. Et donc, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais il y avait un embrouillot, on était dans un piège dans lequel on n'arrivait pas à s'en sortir. Il a fallu que on mette dehors l'aménagement pour faute de résultats et que, automatiquement, les conseils de sécurité nous donnent l'emprise comme des droits, comme il se doit. Et suite, on a déclaré la guerre à qui que ce soit. On était en train d'aller récupérer les emprises comme l'avait dit le conseil de sécurité. Et donc, si ça, faute faisant, d'autres se sont entremis. Et entre-temps, ça a donné l'occasion de récupérer carrément Kidal. Et ce n'est que bon effet. Okay. Et donc, c'est dire au niveau, que ce soit à l'IRD, que ce soit à mon niveau personnel, c'est une très bonne chose. Okay. Et donc, une chose a été maintenant de récupérer Kidal et d'avoir une même mise maintenant sur l'ensemble du territoire. Il reste maintenant de parfaire, de sécuriser, d'apaiser et de pacifier l'ensemble du territoire. Ce n'est pas facile, le plus dur reste à faire. Parce que la pacifier, après que les groupes armés terroristes se soient diversés un peu partout sur le territoire, donc pour dénicher toutes les poches, ça peut prendre du temps, mais il faut y tenir.
Ok, il faut y tenir. Et déjà, 14 janvier, hein, il y a quelques jours, le 14 janvier, et c'était les autorités de la transition ont décrété le 14 janvier, désormais, journée de la souveraineté retrouvée. Alors, je rappelle que le 14 janvier, le peuple malien, comme un seul homme, était sorti pour dire non aux sanctions, hein, donc, aux sanctions que les autorités de la transition qualifient, je cite, hein, d'illégal, illégitime et inhumaine. Et depuis, hein, le 14 janvier, désormais, est décrété journée de la souveraineté retrouvée. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette journée?
Le 14 janvier est une date mémorable. Parce que le 9 janvier, pour d'autres raisons, la CEDEAO, l'UEMOA, ont pris des sanctions, on peut dire, vraiment inhumaines. Des sanctions... Quand on empêche un pays à accéder à ses profonds, qui ont été acquis par la sueur de ses enfants, les impôts de ses enfants, vous imaginez? Et donc, les gens, tous les Maliens se sont sentis concernés. Et les Maliens sont sortis, comme l'avait dit, comme un seul homme, pour soutenir leurs autorités. Vaille que vaille, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, même si. Et donc, de ce point de vue-là, c'est des cas rares. Moi, je dirais que ça a été une journée de patriotisme avéré. Les Maliens ont montré le 14 janvier qu'ils aiment son pays. Souveraineté, elle est multiple de mon point de vue. La souveraineté politique, la souveraineté économique et tout. Mais ce jour-là, le Malien a montré qu'il est patriote. Et moi, personnellement, je l'appellerais la journée du patriotisme du Malien.
Okay.
Et donc, mais c'est une journée vraiment qui doit se fêter.
Oui,
une journée qui doit être retenue, oui, et qui doit être magnifiée, vraiment.
Oui, et d'accord. Et s'il y a aujourd'hui un sujet qui fait polémique, hein, et c'est justement la question de l'EDM, l'énergie du Mali, avec les délestages. Et donc, ils sont nombreux, hein, ces Maliens qui ne comprennent pas pourquoi ces délestages en plein mois de janvier, par exemple, hein, ils se posent des questions. Voilà, est-ce que vous entendez ce cri, hein, de cœur des Maliens?
Si, moi j'entends le cri de cœur de ces Maliens-là. Ce n'est pas acceptable. Le Malien a droit à l'électricité. On doit tout faire pour que le Malien ait accès à l'électricité. Ça fait depuis 2020, l'an 2000, ça fait 23 ans que l'EDM est dans le giron de l'État. C'est une société 100% État. Donc on ne peut pas en vouloir à autre chose. C'est nous les Maliens. Nous n'avons pas pu bien gérer l'EDM pour donner l'électricité aux Maliens, et à juste titre que le Malien réclame l'électricité. Et c'est normal. Ce n'est pas normal qu'on puisse mal gérer une société jusqu'à en arriver à ce point-là. Les délestages, les coupures d'électricité, on en a l'habitude, mais c'était au niveau des périodes de canicule. Donc c'est un ensemble de dates de mauvaise gestion, de mon point de vue, qui se sont cumulées et qui ont abouti à cela, tout simplement. Et donc il faut rapidement y remédier.
Okay.
Et sur le court terme et sur le moyen et le long terme.
Okay. Et parlons toujours, parlons de justice et de lutte contre la corruption. Et sur cette transition, on a vu beaucoup de mandats de dépôt délivrés, hein, soit dans le milieu politique, des activistes, même tout récemment dans le monde religieux. Hein. Qu'est-ce que tout cela, hein, vous inspire? Est-ce que pour vous, les gens ne connaissent pas suffisamment, ne sont pas informés suffisamment sur tous les contours de la loi sur la cybercriminalité? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout ça vous inquiète?
Oh, pas outre mesure. C'est-à-dire, il y a deux choses. Les arrestations liées à la corruption, ça fait spectacle aujourd'hui parce que peut-être que le travail n'a pas été mené de façon continue. C'est-à-dire que la lutte contre la corruption, de mon point de vue, c'est une activité récurrente de tout État. C'est-à-dire que quand on a la charge de gérer un État donné, on doit prendre des dispositions pour protéger les deniers publics, pour protéger les biens de cet État-là. Et donc, on doit même prendre des dispositions pour qu'on ne puisse pas détourner, pour qu'il n'y ait pas d'acte de corruption. Ceci, c'est fait comment ? Il faut, dans toute l'administration, dans toutes les sociétés, il faut mettre des manuels de procédure, il faut mettre des manuels opérationnels, il faut former les Maliens à leur usage. Souvent, d'autres sont aussi induits en erreur par rapport à la mauvaise manière de travailler. Donc, il faut mettre des manuels un peu partout et puis faire en sorte qu'il soit difficile d'accéder aux biens publics. Il faut dématérialiser le maximum possible en informatisant. Et donc, il faut protéger même les Maliens pour qu'ils ne puissent pas avoir l'occasion de procéder, de poser à des actes-là. Ceci dit, si des actes irrépréhensibles sont posés, la justice doit passer. Ça, c'est normal. Et donc, si on ne le fait pas, on ne protège pas le Malien par rapport à cela. Si on ne protège pas le bien malien de façon courante. Et donc, maintenant, quand ça s'accumule et quand la justice commence à passer, ça devient un spectacle. Alors que ça devait être de façon continue, une activité récurrente. Okay. Maintenant, quant aux différentes arrestations liées à autre chose, telles que la cybercriminalité ou autre, moi, je me pose des questions. Je me demande si la loi en question a été comprise. Parce que, de deux choses l'une, quand on prend une loi, cette loi-là est censée s'appliquer aux Maliens, tout court. Et donc, les Maliens sont censés comprendre ce qui, le contenu de cette loi-là et de ne pas
Affreindre
à ces lois-là. Mais quand ça devient massif, bon, y a un problème qui se pose. Soit cette loi-là a besoin d'être expliquée sérieusement aux citoyens pour qu'ils puissent bien la respecter, soit cette loi doit être réformée. Et donc, dans l'un ou l'autre cas, quand il y a des violations de loi, quel que soit le domaine, la justice doit y passer. Ce qui est extrêmement important, okay. Il ne faut pas qu'il y ait une justice sélective. Ce qui est extrêmement important, il ne faut pas qu'il y ait de chasse à la sorcière. Ce qui est extrêmement important, il faut que la justice soit correctement distribuée. Et dès lors, le Malien le comprendra bien.
Ok, le Malien le comprendra bien, on l'espère. Et la classe politique, hein, parlons-en, hein, la classe politique depuis un certain temps est à faune, hein, elle est même couchée. Hein. Certains diront que... elle est même inexistante. Qu'est-ce que vous répondez? Ça vous fait sourire, hein?
Donc, oui, mais moi, je suis là. Je suis de la classe politique. Je suis d'un parti politique. Oui,
donc, c'est un procès d'intention.
Bien sûr. Okay. C'est un procès d'intention. Oui. Moi, je pense que nous intéressons à la politique. Nous sommes acteurs politiques. Nous créons des partis. Nous nous mettons ensemble pour pouvoir initier des projets de société. Nous ambitionnons de diriger un jour ce pays-là. En ce moment, on ne peut pas le faire sans pour autant approcher les Maliens, leur expliquer quelle est notre manière de voir la gestion du pays, qu'est-ce que nous projetons pour ce pays-là. Ça ne peut pas se faire sans qu'on en débatte. Et donc, ceci dit, on peut débattre, on peut donner son opinion, on peut donner son avis sur des questions qui intéressent la nation, sur la vie politique tout court, sur la vie même de la nation tout court, sans heurter qui que ce soit, sans heurter les textes. C'est à cet exercice-là que chacun doit s'évertuer et que qu'on cesse d'être à fond, entre guillemets.
D'accord, vivement, hein, le réveil des partis politiques. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, lors de son adresse à la nation, a parlé de dialogue inter-malien et il dit qu'il faudrait que les Maliens se retrouvent pour échanger, dialoguer. Qu'est-ce que vous pensez, hein, de cette offre, hein, du président de la transition? Puisqu'il y a eu déjà, hein, les assises nationales de la refondation où les Maliens ont parlé. Entre-temps, sous Ibeka, il y a eu aussi le dialogue national inclusif. Bon, certains vont dire que c'est un dialogue de trop, ou bien pour vous, hein, il faut y aller.
Il n'y aura jamais de dialogue de trop. L'essentiel est que il faut, chaque fois qu'il y a une question intéressante. Chaque fois qu'il y a une question importante pour la vie de la nation, il faut mettre les Maliens ensemble pour qu'ils puissent en échanger et puis donner des recommandations. Ceci dit, par rapport au dialogue intermalien, moi je ne suis pas pour le dialogue extérieur aux Maliens. Je n'ai jamais été... par exemple, je dirais tout simplement tout de go que l'Algérie, par exemple, est trop concernée pour être impartiale dans le dossier du Nord. Donc, il faut que les Maliens parlent entre eux. Il y a l'exemple. L'Algérie a connu le cas de 92 jusqu'en 2000, quand ça n'allait pas avec ces groupes armés terroristes. Le Nigeria est dans ce même problème-là. Tous les pays ont des difficultés chez eux. Et tous les pays ne font pas venir l'extérieur pour venir discuter de ces propres problèmes. Il faut que nous, les Maliens aussi, qu'on apprenne à s'occuper de nos problèmes. Personne ne viendra construire ce pays-là à notre place et personne ne viendra réfléchir aux meilleures manières de mettre fin à nos différends quand ça ne va pas entre nous, les Maliens. Donc, vivement, le dialogue intermalien, et il fallait commencer par là.
Ok. Vivement, le dialogue intermalien. Oui, parlons maintenant de l'élection présidentielle. Le gouvernement avait un moment parlé de léger report. Et jusqu'aujourd'hui, hein, on n'a pas de date pour la future présidentielle. Pour vous, homme politique et député élu dans la circonscription de Colombie, ça ne vous inquiète pas, non? Vous n'êtes pas pressé?
Non, pas pressé. Mais notre souhait est qu'on termine au niveau de mon parti. Nous soutenons totalement la transition. Nous sommes pour une transition apaisée. Nous accompagnons la transition de telle sorte qu'on puisse atteindre les objectifs. Parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Il y a eu l'insécurité grandissante, d'une part, et d'autre part, il y a eu un certain nombre d'actes positifs, de mauvaises gestions, notamment électorales. Il y a eu suffisamment de contestations qui ont fait que les Maliens sont descendus dans la rue. Et pour eux, le 18 juin, ça s'est terminé par l'intervention de l'armée. Et donc, quand on est au niveau quand on en vient maintenant à une transition, le rôle essentiel de cette transition, de mon point de vue, c'est de faire face d'abord à ces deux problèmes essentiels. Le problème essentiel, c'est la sécurité. L'insécurité, pardon. L'insécurité, il y a une avancée par rapport à cela aujourd'hui. Et le deuxième pan essentiel, c'est de faire des réformes institutionnelles et politiques, de telle sorte que ce qui a eu lieu avant, ce qui a fait qu'on a connu des crises, il faut plus qu'on en soit là. Et donc la transition doit combattre l'insécurité d'une part et procéder à des réformes institutionnelles. Et au bout de ces réformes institutionnelles-là, passer par des élections pour qu'on revienne à l'ordre constitutionnel normal.
Oui, allez-y.
Donc, nous ne sommes pas pressés, mais notre souhait est d'aller le plus rapidement possible aux urnes. Aux urnes pour que nous puissions en sortir de là et qu'on puisse retrouver l'ordre constitutionnel et que les Maliens puissent faire face aux dirigeants qu'ils ont élus, qu'ils ont mandatés et qui doivent les rendre compte.
Ok, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent trois ans et demi, hein, c'est trop pour une transition? Là, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
Bon, à ces gens, vous savez, je ne répondrai pas à d'autres tendances, à d'autres voix. Mais ce que je peux dire, jusqu'à preuve du contraire, je fais foi, je fais confiance à la bonne foi, à la bonne volonté des autorités actuelles de la transition, de faire terminer la transition par les élections qui vont faire en sorte que le Mali va retrouver leur constitutionnel normal. Maintenant, il y a beaucoup de pesanteurs, beaucoup de facteurs que nous ne maîtrisons pas. Donc, s'il y a des difficultés, ça ne sert à rien d'aller aux élections qui puissent aboutir à des contestations. Il faut préparer, mais sûrement, les élections, il faut que les conditions soient réunies au plan sécuritaire, au plan fichier électoral, au plan préparation de l'administration, de l'EIJ, pour qu'on puisse y aller à des élections apaisées.
Okay.
Oui, mais on n'a jamais montré par contre à qui que ce soit que nous sommes des va-t-en-guerre, qu'il nous faut des élections tout et tout de suite. Okay. Et c'est un procès d'intention.
D'accord. Oui, au niveau de l'IRD, vous dites que l'IRD soutient, accompagne les autorités de la transition, vous êtes dans la dynamique de soutien aux autorités de la transition. Est-ce que l'IRD va soutenir un candidat ou peut-être qui sera choisi par ce gouvernement de transition, ou bien vous aurez, en cas d'élection, l'IRD aura son propre candidat. Est-ce que la question est tranchée ?
Non, pas encore. La question n'est pas tranchée et au moment venu, elle sera tranchée. Okay. Quand elle sera tranchée, on avisera.
Ok.
Ouais. Nous ne sommes pas pour l'instant...
Vous n'êtes pas à ce niveau d'abord.
Non, on n'est pas... cette question n'a pas été abordée ni tranchée au niveau du... Okay. En plus forte raison, tranchée au niveau du parti pour l'instant.
D'accord. Est-ce que vous êtes favorable à une candidature, par exemple, du colonel Assimi Goïta à la future présidentielle, par exemple ?
Je ne saurais prendre une position qui en dehors de mon celle de mon parti, au risque d'être pas un militant indiscipliné, quoi.
D'accord. Mais parlons maintenant de vous-même. Hein, de vous-même, vous avez été élu à Kolondieba et la Cour constitutionnelle a validé votre élection. Nous sommes en 2020. Les événements du 18 août vont carrément annuler vos chances d'être à l'hémicycle. Est-ce que vous regrettez ce passage-là, non ?
J'aurais souhaité continuer en tant qu'élu, parce que nous, avec mon collègue honorable Sidiki Koufa Konaté, nous avons été proprement élus, sans contestation, par une base de plus de 180 000 habitants. Le cercle de Kolondieba. Et donc, nous avons été proprement élus au deuxième tour. Et donc, nous aurons souhaité représenter ces populations-là. Mais, n'empêche, avec mon bandeau de députés, depuis le 5, les événements qui se sont déroulés au boulevard du Peuple, j'y étais avec les autres élus de mon parti. Nous, en tant que députés, nous avons contesté dans la rue, pour que ça change. Ça veut dire que si ce changement aboutit à un renversement du régime en place et même à la dissolution de l'Assemblée, donc c'est ce qu'on a voulu, c'est ce qu'on s'attendait quelque peu à ça. Et si la perte de mon mandat est une solution pour que le Mali aille mieux, moi, ça m'aide sous le corps, quoi, en fait. Voilà, donc je me dis que c'est pour la bonne cause. Nous avons perdu notre mandat, c'est pour la bonne cause.
Oui, mais votre lien avec Kolondieba, est-ce que vous avez gardé un peu l'œil sur votre base ? Est-ce que vous pensez que même si demain vous partez aux élections, que vous avez vos chances peut-être d'être élu ? Est-ce que vous avez cette intime conviction qu'un travail a été fait et que Kolondieba vous porte dans son cœur ?
Ce n'est jamais donné, il ne faut pas minimiser ses adversaires, mais je suis en contact avec ma base, je suis le premier responsable de la section de Kolondieba au niveau du parti, et donc nous portons mieux. Et la base, ce qui s'est passé au niveau de... Il y a la petite histoire d'alliance contre nature. Ce qui s'est passé à Kolondieba, nous on a passé 7 ans face au RPM, nous étions à l'opposition. Nous avons passé 7 ans à se tirer dessus. Et donc, quand il a été question de choisir les candidats, ce n'est pas nous qui avons... Nous, les candidats qui avons souhaité aller ensemble, c'est la population qui a dit si nous voulons 2 candidats cette année pour les législatives, c'est un tel, M. Daouda Moussa Koné, de l'URD, premier point, Monsieur Sidiki Koufa Konaté. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il
y a une confiance.
Il y a une confiance. Donc, ils se sont mis ensemble et ils ne sont pas laissés tomber. Hein. Au moment où le taux de participation à Bamako était autour de 13%, nous, on était à 53% au niveau de Kolondieba, au niveau des élections législatives.
Vous avez proprement gagné ces élections-là ?
Bien naturellement.
La régulière ?
Bien sûr, la régulière. Donc, je veux dire que la population nous a obligés à nous mettre ensemble. Au début, c'était même difficile parce que vous passez 7 ans à vous titiller et après vous vous mettez ensemble pour être des choses, c'était pas facile, mais la population nous a mis ensemble et la population nous a vraiment soutenu jusqu'au bout. Et donc dès lors que ça se passe comme ça, nous sommes élus, mais entre 3 mois après l'Assemblée est dissoute, donc la population et nos militants étaient totalement déçus du fait que l'Assemblée a été dissoute. C'est nous qui au contraire qui les apaisions, et donc ils disent que on a l'assurance que dès que ce serait réengagé et que ils sont encore à notre disposition.
Ok. Oui, est-ce que si demain des élections législatives s'organiseraient dans l'ensemble du territoire, est-ce que vous allez demander le vote des habitants de Kolondieba?
Bon, si naturellement, et ma base dans un premier temps et le parti dans un second temps m'investissent de leur confiance pour porter les couleurs du parti, pourquoi pas? Moi, je suis prêt et j'ai déjà fait l'exercice. Et depuis élève et étudiant, nous sommes dans la politique. Et donc, ce n'est pas demain qu'on va décrocher.
Ok, d'accord. Et parlons maintenant de l'AES. Hein. L'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel. Qu'est-ce que cette alliance a vous inspiré? L'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Est-ce que vous pensez là que c'est un grand coup peut-être politique que le Mali joue avec l'AES?
Ce n'est pas un grand coup politique. Disons que c'est un grand coup politique. Moi, je voudrais que ce soit un grand coup tout court.
Okay.
Moi, je suis un fervent défenseur de l'AES. Je suis un fervent défenseur des regroupements des pays. Il faut que les pays africains se rendent compte à un moment donné, qu'ils se disent une bonne fois pour toutes que les micro-États qu'on nous a imposés ne sont pas viables. Plus on se met ensemble, plus on sera fort. J'aime cette sortie à un moment donné de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadou, qui nous a dit que les pays africains perdent leur temps. Quand tout le monde se mettra ensemble pour transformer l'UA aux États-Unis d'Afrique, le lendemain, on a la quatrième puissance économique et politique du monde. Qui va cracher sur ça? De la même manière, l'AES aujourd'hui, en se mettant ensemble, l'AES, ça fait 2 800 000 kilomètres carrés. Ça fait 80% du territoire de l'IEMOA. Ça fait 53% du territoire de la CEDEAO. Ce n'est pas rien. L'AES, ça fait environ 80 millions d'habitants. 51% de la population de l'IEMOA et 17% de la population de la CEDEAO. L'AES, on aura la plus forte armée. L'AES, on est premier producteur de coton, premier producteur d'or, premier producteur d'uranium, ainsi de suite. On peut en citer.
Le coton aussi.
Le coton, l'or, l'uranium, nous serons les premiers en cela. Et donc, nous sommes en passe alors de devenir la première au bas mot, la deuxième puissance économique de la CEDEAO. On ne crache pas sur ça. Et donc, l'AES, c'est une très bonne chose. Et moi, je souhaiterais qu'on s'en arrête pas là. D'autres ont des appréhensions parce qu'on dit que c'est des pouvoirs, des autorités de transition qui ont mis en place ces choses-là. Mais un État, il est engagé. Les chefs d'État engagent un État. Et donc, même s'il y a des autorités...
Les chefs d'État élus.
Les chefs d'État tout court. Parce qu'un État, c'est la continuité, c'est l'administration. Et donc, le président de la République est le chef de l'État. Le président de la République est en même temps chef de l'État. Mais quand on engage un État, cet État est engagé vis-à-vis de la Constitution. Et donc, il faut que, même s'il y a des élus, moi, mon souhait est qu'on puisse renforcer cette union-là et qu'on puisse faire en sorte que l'AES, si on mutualise nos forces, si nous nous mettons ensemble, il y a plein de problèmes qu'on va résoudre aisément au niveau de ces trois États-là.
Oui, parlons de diplomatie. Le Mali et l'Algérie, à un moment, il y avait une brouille diplomatique entre les deux États, mais depuis quelques jours, on a comme l'impression qu'on est dans une phase de normalisation. Qu'est-ce que c'est là? Est-ce que vous avez suivi cette actualité et que pensez-vous des relations entre le Mali et l'Algérie?
J'ai suivi comme tout Malien. En fait, dans la géostratégie, dans le concert des nations, chaque pays a le devoir de se faire respecter. Ça, le comportement des autorités maliennes m'a plu par rapport à cela. Et donc, je disais tantôt que l'Algérie est suffisamment concernée par le problème du Nord pour être un arbitre partial. Ça c'est mon point de vue. Et pas pour être un arbitre impartial. Et donc, il faut que le problème d'abord soit résolu entre nous, Maliens, et si on veut avoir un autre pays pour nous aider à nous mettre ensemble, que ce pays ne soit pas fortement concerné par la question qui nous oppose. Et donc, le Mali, que ce soit l'Algérie, que ce soit un autre pays majeur, il faut cultiver la culture de la bonne, du bon voisinage avec tous les pays qui nous entourent. Le bon voisinage, la bonne coopération. Mais ceci ne veut pas dire qu'on ne doit pas se faire respecter. Il faut que, dès lors qu'il y a transgression des règles du bon voisinage, il faut carrément, sans être belliqueux, il faut vraiment se faire respecter. Montrer qu'il y a des limites.
Okay. Montrer qu'il y a des limites.
À ne pas dépasser.
Oui, des limites à ne pas. J'espère que l'Algérie n'a pas dépassé ses limites, non ?
Bon, que voulez-vous ? Comment on peut discuter des questions aussi importantes telles que telles qu'avec certains ténors de la CMA et avec d'autres Maliens, traiter des questions maliennes en dehors des autorités maliennes. Ça, quand même, c'est un minimum qu'il faut faire, quoi, moi, je crois.
D'accord. Quel est votre regard, justement, sur la diplomatie, sur la diplomatie malienne sous cette transition? Est-ce que vous pensez que c'est une diplomatie qui rassure?
Une diplomatie qui fait respecter le Malien. Mais je dirais aussi que au-delà du respect du Malien, il faut être souvent moins agressif. La diplomatie, on se fait entendre, on se fait respecter, sans pour autant souvent agacer son partenaire. Parce que dans tous les cas de figure, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Des temps durs passent, les périodes dures passent, et après, on est appelé à coopérer avec toutes les nations du monde. Okay. À condition qu'on se fasse respecter les unes des autres.
Aujourd'hui, le Mali et la CEDEAO, est-ce que vous pensez que si on ne respecte pas le délai prévu pour la fin de la transition, est-ce que vous ne craignez pas des nouvelles sanctions de la CEDEAO, par exemple?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que les sanctions vont montrer leurs limites. Sanctions au Burkina, sanctions au Mali, sanctions au Niger, les sanctions ont montré leurs limites. C'est-à-dire que, de façon avisée, je conseillerais à la CEDEAO d'approcher chaque fois, d'aller sur les concertations. Il faut dialoguer avec les différentes autorités et s'assurer vraiment qu'ils sont de bonne foi et pour pouvoir aller à l'essentiel. Okay. Les sanctions ont montré leurs limites.
Oui, sur le plan aujourd'hui, si le Mali a aujourd'hui un partenaire stratégique, c'est bien la Russie, le partenariat avec la Russie. Est-ce que pour vous, c'est un partenaire gagnant-gagnant? Est-ce que pour vous, il donne des bons résultats? Surtout sur le volet sécurité, par exemple.
La Russie donne de bons résultats, surtout sur le volet sécuritaire, premièrement. Deuxièmement, ce que moi j'apprécie dans la coopération russe, vous allez voir rarement que la Russie, avant l'Union soviétique, est allée s'imposer à un pays. Vous faites cela ou je fais cela. La Russie, de mon expérience, elle coopère avec les pays à leur demande. La Russie, j'ai entendu dire quelque part que la Russie ne peut pas développer un pays. Ce n'est pas à la Russie de développer le Mali. C'est à nous de développer le Mali. Et nous devons dire à la Russie qu'est-ce que nous voulons d'elle. Elle nous dira ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Et donc, j'ai rarement vu la Russie s'immiscer directement dans les affaires intérieures des pays tels que certains pays. Maintenant, ça dépendra de nous. Il faut que nous sachions que ce que nous voulons prendre au niveau de la Russie, en quoi elle peut nous être utile. Et nous exprimerons en ce moment leurs besoins. Et en retour, maintenant, nous allons discuter avec elle comment nous allons monter ce partenariat stratégique-là qui est déjà en cours d'ailleurs. Moi, j'ai fait parfaitement confiance à la coopération russe.
Ok. Oui, revenons à l'accord, à l'accord d'Alger, puisque le président parlait de dialogue intermalien. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, Et l'accord d'Alger, hein, il n'est plus d'actualité. Voilà, avec ce nouveau dialogue, hein, qui va se faire tout bien, et il sera aussi question... bien, c'est le rapport de force qui a changé. Comment vous comprenez ça? Est-ce que, parce qu'il y avait au moins une base, hein, une base de discussion qui était l'accord d'Alger, dans lequel le Mali se retrouve, et puis aussi les ex-groupes armés, je parle de la CEMA, par exemple. Maintenant, avec ce nouveau dialogue intermalien, la CEMA n'est pas sur le territoire du Mali présentement. Et comment envisagez-vous l'avenir?
La déduction est toute simple. Quand vous voyez les accords de Tamara 7, les accords de Tamara 7 ont volé en éclats quand il y a eu des attaques et il y a eu la belligérance. Okay. Ensuite, il y a eu l'accord d'Alger de 2006 qui a volé également en éclats quand il y a eu la belligérance. Mm-hmm. Après, il y a eu les APR, accords d'Alger. Quand il y a belligérance après cela aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accord était là pour arrêter la belligérance, pour qu'on s'attaque plus et qu'on mette en œuvre, on se mette d'accord pour pacifier le pays et développer le pays. Dès lors qu'il y a rupture, une partie attaque. Ça veut dire que de facto, ça enterre l'accord, les accords d'Alger. Il faut maintenant dialoguer. Okay. Il faut dialoguer entre nous Maliens pour prendre en compte les questions de développement, les questions de retour de l'administration, les questions de pacification, les questions de sécurisation du territoire. Selon de mon point de vue, la page d'accord d'Alger est totalement tournée.
Ok. Oui, un mot sur qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'action du gouvernement conduit par le Premier ministre, le Dr Choguel Bukalamaga.
Je dirais dans la bonne direction, mais peut mieux faire.
Ok. Peut mieux faire. Mm. D'accord. Oui, on est pratiquement à la fin de l'émission. Si vous avez un message pour les Maliens, les Maliennes qui nous regardent ce soir sur Yoliba TV News, c'est quoi le message?
Le message aux Maliens, c'est d'abord de se mettre ensemble. Le premier message s'adresse aux autorités. Il faut que les autorités soient patients. Il faut qu'ils soient à l'écoute. Il faut qu'ils rassemblent davantage les Maliens. Il faut qu'ils montrent leur bonne foi aux Maliens. Il faut qu'ils mouillent le maillot et qu'au bout, les Maliens apprécient. Le message aux citoyens maliens, c'est qu'il faut que nous travaillions. Il faut que les Maliens sachent que, c'est-à-dire, on développera ce pays-là, c'est avec le labeur. Avec le travail. Il faut qu'on cesse des effectifs. Il faut qu'on cesse de traiter un tel Malien, un tel Malien. Il faut arrêter. Tous les Maliens ont son droit et égaux devant la loi, conformément à la Constitution. Et de ce point de vue-là, il y a des différents temps. La différence enrichit, au contraire. Il faut que les Maliens travaillent. Il faut que les Maliens respectent les lois. Mais quand la justice passe, il faut qu'elle soit impartiale. Et donc, c'est au bout de ce rouleau-là que nous allons nous en sortir.
Okay, merci. Dauda Moussa Kone, député élu à Kolondiéba en 2020, avant les événements de août 2020. Vous êtes aussi économiste de formation, septième vice-président de l'URD. Bon, Dauda Moussa Kone, c'est la CAN 2024 qui se joue présentement en Côte d'Ivoire. Le Mali avait gagné son premier match contre le premier match du Mali contre l'Afrique du Sud, 2-0. Et la compétition continue. Est-ce que vous avez votre pronostic, vos pronostics pour le reste de la compétition? Vous voyez combien d'équipes déjà dans le dernier carré, comme on dit?
Vous savez, les jeunes Maliens, bravo. Bravo aux aigles du Mali. Les aigles du Mali sont talentueux. Je me demande si les aigles du Mali ne sous-estiment pas leur potentiel. Ce qui leur manque, de mon point de vue, un peu, c'est le fighting spirit, ce qu'ils disent en anglais. C'est-à-dire qu'il faut, de l'engagement. Okay. Les aigles maliens ont besoin d'avoir un peu d'engagement pour nous ramener la couche. Okay. félicitations à eux, ils sont sur la bonne voie. D'accord. Et bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup, Dawda Moussa Kone. C'était un plaisir de partager ces entretiens avec vous. Merci. Oui, donc, clin d'œil aux téléspectateurs de Kolondjeba qui nous suivent.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Malheureusement, rares sont ceux qui ont accès à Djilba TV.
Ah, n'est-ce pas?
Parce que c'est sur Canal.
Oui.
Et donc, le pouvoir d'achat du citoyen moyen à Kolondjeba ne permet pas d'avoir un abonnement à Canal.
Que ça serait, ça va être
sur les réseaux sociaux.
Ça peut être votre nouveau projet de société, peut-être pour.
Bien sûr. Un coucou à mes militants de Kolondjeba. À tous les militants IRD de Kolondjeba et tout à mes compatriotes de Kolondjeba et que bon vent.
Merci. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Djoliba TV News. Vous pouvez retrouver cette émission demain à 10h et le samedi à midi à 00. Rendez-vous est pris à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission En toute liberté. Au revoir.
Liberté.